Vous savez certainement que le travail du pasteur n'est pas facile, notamment dans la préparation des prédications. Et je dois avouer que le jour de la fête des mères, c'est, on va dire, une des prédications avec lesquelles j'ai le plus du mal. Pourquoi ? Eh bien, parce que je suis un homme. Et un homme parlant à des femmes le dimanche, comme j'ai dit, ça, c'est un peu complexe. On se dit, mais la Bible remplie de vérité, où est-ce que on va aller puiser des enseignements? Et en plus, les femmes ne sont pas les seules. Donc, dans l'assistance, aujourd'hui, on a des femmes, on a des jeunes, on a des hommes. Donc, tout en mettant un accent particulier sur les femmes, bien sûr, ce que nous allons voir ce matin, c'est valable pour tous. Donc, les hommes, écoutez bien. Ne croyez pas que c'est juste pour les femmes, puisque de toutes les façons, dans quelques semaines, la fête des pères, ce sera pour vous aussi. Mais ce jour-là, les femmes, ce sera aussi pour vous. Et c'est en y réfléchissant que le Seigneur a dirigé mes pensées vers un passage dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et vous allez vous dire, mais Robert, un passage sur la résurrection le jour de la fête des mères. Alors, comment se fait-il? Et pourtant, ce que Paul va expliquer dans ce passage, en fait, c'est juste quelques versets à la fin de ce chapitre. Je suis convaincu, bien sûr, s'applique aux femmes, aux mamans, mais à chacun de nous. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, et les deux derniers versets, versets 57 et verset 58. Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous implorons ton aide déjà pour comprendre ta parole, comprendre ce que tu as pour nous et Seigneur, que tu diriges notre pensée, que par ton esprit, nous soyons capables de saisir ta vérité. Et par la suite, que tu nous remplisses de ta force pour la mettre en pratique, que tu continues de transformer notre vie et que toute la gloire te revienne pour ce que tu feras. En ton nom. Amen. Le travail des mamans n'est pas facile. Il semble que, avec mes frères, j'en ai deux, que ma mère disait parfois, je ne sais pas si mes garçons vont arriver à l'âge adulte. C'est pas possible, ils vont s'entretuer. Ce n'est pas possible. Nous voyons autour de nous, le monde dans lequel nous vivons, les enfants, on les appelle parfois des enfants terribles, n'est-ce pas? Et on voit la lutte parfois qu'il y a, et les mamans, parce que souvent ce sont elles qui sont à la maison, qui passent un peu plus de temps avec les enfants, on voit que c'est vraiment pas facile. Et on voit aussi que, pas simplement avec les enfants, mais parfois les femmes, elles ont un mari qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Alors ne levez pas la main, mais voilà, il y a peut-être, même aujourd'hui, des femmes n'ont pas des maris faciles. Quel mari est facile, vous allez me dire. Et dans le cours de la vie, dans cette vie qui est, reconnaissons-le, ne nous voilons pas la face, très difficile, tout ce qui pourrait nous arriver de l'extérieur, à cela, il faut s'ajouter effectivement ce qui vient de l'intérieur, de la famille. Même si tout se passait bien à l'extérieur, il resterait conflit, incompréhension, tension, friction à l'intérieur de la famille. Et ça, entre maman et mari, entre la maman et les enfants. Et il est possible que face à tout cela, parce que ce n'est pas juste un jour. Si c'était juste un jour, ok, très bien, on pourrait supporter. Mais quand c'est jour après jour après jour, et quand c'est plusieurs fois par jour, et on se dit, mais ça ne finira jamais, et on peut arriver à cette conclusion, bah, ça ne vaut pas la peine. Je fais quelques gestes ici et là, je fais certaines choses parce que c'est ce qu'on attend de moi, mais au final, ça ne servira à rien. Et dans ces moments-là, nous avons besoin d'encouragement. Les mamans ont besoin d'encouragement, mais nous sommes tous dans cette catégorie de personnes qui ont besoin de l'encouragement. Et cet encouragement, Paul nous l'apporte dans ce verset. Puisque si nous sommes honnêtes, je suis convaincu que chacun, à un moment ou à un autre, s'est dit « ça ne vaut pas la peine ». Les choses ne changeront jamais. J'ai beau essayer, j'ai beau continuer, j'ai beau même faire ce qu'il faut, ben c'est pas la peine. Alors à quoi bon continuer? Je vais tout lâcher. Et malheureusement, il y a des exemples, nous pourrions les citer, de personnes qui ont jeté l'éponge, comme on dit, qui ont baissé les bras et qui se sont dit « c'est trop dur de continuer, alors je passe à autre chose ». Des femmes qui quittent leur mari, des femmes qui font de mauvais choix. Et bien sûr, ce n'est pas limité aux femmes. Non, 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 non. Les hommes aussi en sont responsables. Des hommes qui quittent leur famille. Des enfants qui, arrivés à un certain âge, disent ce que mes parents m'ont apporté, même ce que l'Église m'a apporté, je n'en veux plus. C'est trop dur, c'est trop contraignant, trop de règles, alors je veux faire ce que je veux, alors je pars. Et on pourrait être dans cette perspective de croire que ce que nous faisons, notamment pour Dieu, et plus précisément au sein de la famille, ne sert pas à grand-chose. On le fait parce qu'il le faut, on n'a pas d'autre choix, mais on se dit finalement, ça ne vaut pas grand-chose et au final, ça ne servira pas à grand-chose non plus. Et c'est à la fin du verset 58 que Paul il arrive à cette conclusion. Sachant que votre travail, et nous allons appliquer cela aujourd'hui spécifiquement au travail des mamans. Mais l'idée de Paul, et je reconnais très bien que ce que lui il est en train de dire, c'est à cette église et leur travail pour le Seigneur et tout. Mais il me semble tout à fait approprié donc, d'appliquer ce passage en disant, pour les mamans, leur travail au sein de la famille ne sera pas vain dans le Seigneur. Puisqu'il est possible que les mamans se disent, oui, je travaille pour le Seigneur, je fais ce qu'il faut au sein de ma famille. J'élève bien mes enfants, j'aime mon mari. Mais au final, ça n'apportera rien. Et le témoignage de ce passage, la vérité de ce passage, c'est que si, combien même on ne voit pas le fruit tout de suite, notre travail pour le Seigneur, au sein de notre famille, parce que c'est là où ça doit commencer, ce travail n'est pas en vain. C'est Dieu qui le dit. Et même si cette pensée vient dans notre esprit, c'est en vain. Ça n'aboutira à rien, ou du moins pas grand-chose. Ici, Paul est en train de dire, inspiré par Dieu, notre travail ne sera pas vain. Ça aboutira à quelque chose. Et ce travail dans le Seigneur, c'est au sein de la famille. Ça commence chez nous. Et parmi les mamans, il faut cet encouragement. Ce que nous faisons a un sens. Ce que nous faisons, ce qu'elles, elles font, apportera du fruit. C'est Dieu lui-même qui s'en assure. Mais comment continuer d'être dans cet esprit d'encouragement? Comment continuer face aux épreuves, face à la désobéissance continuelle d'un enfant, face peut-être à l'indifférence d'un mari, face aux difficultés qui puissent survenir? Dans une famille, comment est-ce qu'une maman, et comment est-ce que chacun de nous aussi, puisse continuer et rester dans cette perspective que ce qu'on fait n'est pas vain? Et tout commence au verset 57. Paul, il avait donné tout un raisonnement dans le début de ce chapitre sur la résurrection. Son but, c'est de prouver que la résurrection de Jésus-Christ est une réalité. Et parce que Jésus est ressuscité, nous allons également ressusciter si, donc la grande condition, si nous reconnaissons Christ comme notre sauveur personnel. Et c'est au verset 57 que nous avons cette assurance. Mais grâce soit rendue à Dieu. C'est le point de départ. Si vous éliminez Dieu de votre vie, vous serez découragé, c'est sûr et certain. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, tout le reste, ça ne vaut pas grand-chose. Tout le reste ne s'applique pas à vous. Puisque Paul, il commence en disant « Grâce soit rendue à Dieu ». Nous sommes encouragés, nous avons la victoire, non pas parce que nous sommes forts, non pas parce que nous sommes intelligents, non pas parce que nous avons les meilleures méthodes et la meilleure façon de faire, non pas parce que nous avons beaucoup d'expérience, non pas parce que nous avons fait beaucoup d'études. Nous sommes victorieux, nous sommes dans cette perspective de persévérance, d'attente, parce que Dieu le fait. Grâce soit rendu à Dieu. Est-ce que chacun ici peut, de façon légitime et de façon honnête, se lever tous les matins et dire « Grâce à Dieu, je vais affronter ce jour. Je vais affronter les choses qui viennent dans ma vie. » Est-ce que les mamans peuvent chaque jour se lever en disant « Peu importe ce que me font mes enfants. » Et ils peuvent inventer tout et n'importe quoi. Peu importe les tensions qui pourraient souvenir avec mon mari, peu importe ce qui peut venir avec des voisins, des collègues de travail, si on travaille, peu importe toutes ces choses, je sais que je suis déjà vainqueur en Jésus-Christ. Parce que c'est le point de départ. Ce verset 57, « Grâce soit rendue à Dieu ». Ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas notre intelligence. Ce ne sont pas toutes les études que nous avons faites. Ce n'est pas toute l'expérience que nous avons. Non, c'est grâce à Dieu. Et plus précisément, par Jésus-Christ, comme nous voyons dans la suite de ce verset 57, qui nous donne la victoire. Vous voyez l'assurance dans ce verset. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas par moment possible. Petit point d'incertitude, mais espérons quand même, parce que peut-être ça arrivera. Non, non, non. Qui nous donne la victoire? Ce sont les enfants de Dieu qui sont victorieux. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ne peuvent pas du tout expérimenter ce que nous voyons dans ces versets. Ceci est réservé exclusivement pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et ça peut sembler assez exclusiviste, comme si on est dans un groupe à part. Et quelque part, ça l'est, puisque Jésus, il est exclusif. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si nous ne voulons pas de Jésus, ben, pas de moyen du salut. Et ici, Paul reconnaît que la base de tout, c'est cette relation avec Jésus-Christ. Et lorsque nous l'avons, la victoire, elle est assurée. Elle est assurée. C'est Dieu, par Jésus-Christ, qui nous donne la victoire. Et ce n'est pas simplement une idéal hors d'atteinte, quelque chose qui est là, une belle idée, oui, c'est formidable, mais bon, revenons à la réalité. Non, 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 non. Ceci est la réalité. Par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, sur la mort, sur le péché, comme les versets 55 et 56 l'indiquent. Mais pas simplement là, mais dans chaque situation de la vie. Dieu, par Jésus-Christ, nous donne la victoire. Et la victoire dans notre maison, chez nous. La victoire dans nos relations avec notre famille. Que vous soyez maman, papa, enfant, jeune, plus âgé, peu importe notre statut familial, Dans notre famille, Dieu nous donne la victoire. Dieu ne veut l'échec pour personne. Et Dieu prépare la victoire. Et cette certitude est totalement différente des méthodes du monde qui disent « Vous faites ces 5, ces 10 choses et là, peut-être vous allez réussir. » Non. Dieu dit « Moi, je vous donne la victoire. » Mais ça passe par Jésus-Christ. Si on n'est pas prêt à recevoir Jésus-Christ, on n'est pas prêt pour la victoire. Et parce que Dieu nous donne cette victoire en Jésus-Christ, regardez le verset 58. Ainsi, Paul fait le pont avec le verset 57. Et il dit, sur la base de ça, parce que Jésus est réellement ressuscité, parce qu'un jour, si nous le connaissons, nous serons ressuscités également, parce que nous avons déjà la victoire. Ainsi, mes frères, là vous pouvez mettre entre parenthèses mes sœurs, les hommes, les femmes, tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes. Soyez fermes. Parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ déjà, c'est une certitude, ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Ne veut pas dire que nous pouvons délaisser nos responsabilités en disant ben, « J'ai la victoire en Jésus-Christ, Dieu s'en occupera, alors Dieu fait de son côté, moi je n'ai qu'à vivre ma vie et tout ira bien. » Et non. Nous voyons ici que oui, la victoire nous vient de la part de Dieu, mais de notre côté, nous sommes appelés à être fermes, solides. C'est l'idée. Résistant. Et face aux difficultés de la vie, dans notre monde qui a tant de facilité, où on a rendu la vie tellement facile et simple, bah, cette idée de fermeté, de tenir ferme, bah, on l'a peut-être oublié un peu. Dans des pays où les chrétiens sont persécutés, souvent leur foi est beaucoup plus forte que la nôtre. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ont besoin de tenir ferme contre ces attaques. Et aujourd'hui, puisque bah, nous ne sommes pas trop embêtés, si, bon, ici et là, on va dire quelque chose, bah, on va peut-être nous empêcher d'avancer dans le travail, on nous mettra quelques bâtons dans les roues, mais on ne peut vraiment pas parler de persécution. Il est possible que, bah, on relâche un peu. Et on devient un peu trop mou, on fait des compromis, on accepte certaines choses, et dans notre famille, eh ben, on n'est pas ferme. Mais nous sommes appelés à la fermeté. Et il est formidable que ce mot est employé, puisqu'il faut bien faire la distinction entre la fermeté et la dureté. Et pour les membres de la chorale, ben, je leur dis souvent, ben, ce qu'on veut, c'est être ferme, bien solide, mais pas rigide. Pour le chant, la rigidité, il ne faut pas du tout. Et dans la vie chrétienne, effectivement, il s'agit d'être ferme, solide dans ses convictions, mais pas rigide, pas dur. Non, nous devons être connus pour notre douceur. Et fermeté et douceur ne sont pas incompatibles. Jésus, bah, l'exemple par excellence, bah, il était ferme, n'a jamais fait le moindre compromis. En même temps, quelle douceur venait de sa vie. Qu'il s'agissait des disciples, qu'il s'agissait des femmes qui étaient avec lui, des enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour eux et ceux qui leur ressemblent. Donc cette fermeté, n'y voyez pas la dureté. Non, nous ne sommes pas appelés à être durs, non. Nous sommes appelés à être doux, compatissants, mais en même temps de ne jamais compromettre nos convictions par rapport à la parole. être ferme face aux attaques. Et ne nous trompons pas, Satan attaque les familles. Satan attaque les mamans. Satan attaque les papas. Satan attaque les enfants. Il rôde. Lui, il est à l'œuvre et il faut lui résister avec une foi ferme, comme Paul, comme Pierre va le dire. Soyez fermes. Oui, nous avons la victoire. Et parce que nous avons l'assurance de cette victoire, nous pouvons tenir fermes. Mais Paul va un peu plus loin. Il dit, soyez fermes, inébranlables. Alors, pas possible d'être bougé. Vous pensez à la chose la plus solide au monde. Et là, vous pouvez penser à ce mot inébranlable. Ces grandes tours, c'est impressionnant lorsqu'on les voit. Ces tours de des dizaines d'étages. Et on se dit, mais comment est-ce que ça tient? Voilà, inébranlable. Pas possible d'être, pas possible de bouger. Enraciné, solide. Lorsque nous réfléchissons à notre vie, est-ce que c'est l'idée qui vient dans notre esprit? Est-ce que c'est l'idée d'un arbre qui est là avec des racines profondes et qui vont loin pour que face au vent, cet arbre résiste? Ou est-ce que nous sommes ce tout petit arbre qui, dès que le vent il arrive, ça couche par terre? Ce que Paul dit, c'est nous avons la victoire en Jésus-Christ et ainsi nous devons être inébranlables. Pas de doute. Parfois, le doute vient dans notre esprit. Est-ce que la Bible est réelle? Est-ce que les promesses de Dieu, il va les tenir? Vous vous êtes déjà posé ces questions? Jésus, il était réellement Dieu? Mais comment ça? 100% homme, 100% Dieu. Non, mais c'est pas possible. Pourtant, la Bible le dit. Satan veut jeter le doute dans notre esprit. Et lorsque ce doute vient, parce que croyez-moi, il viendra, si nous connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes appelés à être inébranlables. Pas flottants, Jacques va employer cette image des vagues de la mer, flottants, ici et là. Paul, dans un autre passage, il va parler d'être ballotté à droite et à gauche. Non, ce n'est pas du tout ce qui doit caractériser notre vie, mais inébranlable. Notamment sur les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu? Parmi d'autres, il y a la promesse que Dieu va pourvoir. Parfois, on ne sait pas comment. Parfois, on arrive à la fin du mois et on se dit, je ne sais pas comment je vais boucler le mois. Je ne sais pas ce que je ferai pour le mois suivant. Mais Dieu, il promet de pourvoir. Dieu promet de nous diriger. Dieu nous fait des centaines de promesses dans la Bible. Et est-ce que nous sommes inébranlables face à cela? Puisque le monde qui est autour de nous va nous dire, oui, mais vous dites que votre Dieu, il va faire toutes ces choses. Mais regardez votre situation. Regardez comment vous êtes. Vous restez encore attaché à Dieu, mais ce n'est plus la peine. Et à ce moment-là, c'est comme la femme de Job. Vous vous souvenez? Tous ces malheurs viennent d'arriver à Job. D'un coup, il est effondré. Il se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Je perds tout. Et qu'est-ce que sa femme lui dit? C'est plus la peine de tenir ta justice. Maudit Dieu et meurs. Alors, il ne faut pas du tout ressembler à la femme de Job. Hein? Les mamans ne ressemblaient pas à la femme de Job. Okay? Et Job, sa réponse, c'est « Nous recevons du bien de la part de l'Éternel, nous ne recevions pas le mal. » Quel exemple! Job avait des doutes. Vous lisez le livre de Job? Énormément de doutes. Mais à la fin, il est resté attaché à Dieu. Job était inébranlable. Est-ce que nous le sommes? Lorsque des choses inattendues arrive, quelle est notre réaction? Une panne. Quelque chose se casse chez vous. Une facture inattendue. Une maladie dont on ne s'y attendait pas du tout. Une nouvelle perte de travail. vous y mettez ce que vous voulez, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout, et vous dites, je ne sais pas du tout comment je vais faire face à ça. Quelle est votre réaction? Le désespoir? De dire, ah, je ne sais pas du tout comment je vais affronter, surmonter cette situation, alors je jette tout. Ce n'est plus la peine. Et ici, nous sommes appelés à être inébranlables. Oui, des situations complexes, des situations inattendues peuvent nous faire peur. La peur, c'est une réaction humaine, tout à fait normale. Mais la peur doit toujours être surmontée par cette confiance en Dieu que lui, il contrôle toutes choses. De revenir toujours à ce point de départ, c'est Dieu qui est là. Et pour les moments, Dieu leur donne la promesse de s'occuper d'elle, de pourvoir, de leur donner sa sagesse, de les diriger pas à pas chaque jour, de les soutenir, d'être avec elles. Les mamans qui connaissent Jésus comme leur sauveur personnel ne sont jamais seules. Combien même elles seraient toutes seules à la maison, elles ne sont jamais seules parce que Dieu est avec elles. Et c'est pareil pour chacun de nous. Peu importe où nous sommes. David, dans le psaume 139, il va dire, peu importe où je vais, je peux aller jusqu'au bout du monde, Dieu est là. Je peux essayer de me cacher, Dieu me voit. Dieu est là, et parce que Dieu est là, parce qu'il nous donne la victoire, nous pouvons être inébranlables. Mais ben, ça demande de l'effort. Ça ne vient pas tout seul. Ça demande de l'effort de notre côté, de nous souvenir, de laisser Dieu nous rappeler des vérités de la Bible. Et tout ceci sur la base de notre relation personnelle avec Dieu. Or, si cette relation personnelle avec Dieu est inexistante, toutes ces autres choses, nous ne pouvons pas les faire. Ce n'est pas possible. Et ces deux premières choses, Paul est un peu négatif, c'est-à-dire soyons fermes, donc on ne bouge pas, inébranlables, donc là, ce sont des choses qui viennent de l'extérieur, mais là, il passe au positif, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant, étant à l'œuvre. Et bien sûr, ce passage, on est dans un contexte d'église, l'église locale à Corinthe, mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons faire l'application à notre champ de mission, qui est notre famille. La famille que Dieu nous a donnée. Maman, si vous avez tel ou tel enfant, cela n'échappe pas à Dieu. Dieu ne s'est pas trompé en vous donnant tel ou tel enfant. Si vous avez un mari, c'est Dieu qui vous l'a donné. Marie, si vous avez telle ou telle femme, parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Et lorsque nous comprenons cela, et que Dieu nous appelle à travailler tout d'abord chez nous, et que nous voyons tout le travail qu'il y a à faire chez nous, on se dit, je dois être à l'œuvre pour Dieu. Mon premier champ de mission, c'est ma famille. Et puis, travaillons de mieux en mieux. Il doit avoir du progrès. Est-ce que dans votre famille, pour le Seigneur, vous travaillez mieux aujourd'hui qu'en début d'année? Là, on est à la fin mai, 5 mois de l'année écoulée. Est-ce que vous êtes en train de travailler mieux pour le Seigneur dans votre famille que en début d'année? Ne parlons même pas de l'année dernière. Mais ces 5 premiers mois de l'année, est-ce que vous avez progressé dans votre travail au sein de votre famille pour le Seigneur? Et vous allez dire, mais Robert, tu ne connais pas mon contexte, tu ne connais pas ma situation, tu ne connais pas mon mari, tu ne connais pas mes enfants, tu ne connais pas ma femme. Et c'est vrai, je ne connais pas les contextes particuliers de chacun. Mais Dieu les connaît. Et Dieu, ici, est en train d'appeler chacun de ses enfants, sans exception, à travailler de mieux en mieux pour lui au sein de leur famille. Est-ce que vous devenez frustré avec votre conjoint? parents, est-ce que vous devenez frustré avec vos enfants? La question ne se pose pratiquement pas, parce que la réponse, elle est évidente. Mais bien sûr que oui. Les enfants, ils savent quoi dire, ils savent quoi faire. Est-ce que notre réaction face à ce que les membres de notre famille disent, au fond, est en progression? Est-ce que nous travaillons de mieux en mieux au sein de notre famille pour Christ? Il y aura toujours du progrès à faire. Nous ne sommes pas parfaits. Ici, Paul ne dit pas « soyez parfaits » dans le sens « vous allez toujours agir bien ». Mais il doit avoir un progrès. Il doit avoir moins de frustration, une meilleure approche, plus de temps passé dans la parole, plus de temps passé dans la prière, plus de temps passé dans les discussions, calme, dans la compréhension. Et lorsque nous examinons notre vie, oui, on est bien occupé, on a nos responsabilités, on travaille beaucoup, on est appelé à droite et à gauche pour un ensemble de choses. Mais est-ce que nous faisons toutes ces choses au détriment de notre famille? Si nous connaissons Christ comme notre sauveur personnel, notre famille doit être différente de celle du monde. Y a-t-il une différence? Je vous pose la question. À vous de répondre. Y a-t-il cette différence? Et bien sûr, Paul, en comprenant que les Corinthiens pourraient se dire, mais à quoi bon? Paul, depuis des années, on a travaillé dans l'Église, depuis tant d'années, nous avons fait ceci ou cela, rien ne semble bouger, on est toujours au même niveau. Et Paul dit, il faut, oui, être ferme, être inébranlable, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, parce que nous avons cette certitude. C'est pas juste un espoir. Peut-être. Ce n'est pas comme si on joue au loto. Si je fais tout bien, ben peut-être un jour Dieu me bénira. Non, sachant cette certitude, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce travail au sein de la famille, il est vrai, peut-être on ne verra pas le fruit tout de suite. Il a fallu quelques années, pour ne pas dire beaucoup d'années, pour mes parents de voir le fruit de tout leur investissement et de tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur dans la vie de mes frères et moi. Et il faudra peut-être attendre encore des années pour vous, si vous êtes en train de travailler pour Dieu, avant de voir le fruit. Et parce qu'il y a cette attente, la tentation est là de dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou est-ce que je ne suis pas plutôt en train de perdre mon temps? Je pourrais m'amuser de toutes ces différentes manières. Je pourrais faire toutes ces autres choses, passer mon temps à faire toutes ces autres choses qui semblent apporter une réussite, qui semblent apporter un bonheur, un épanouissement temporaire aujourd'hui. Pourquoi me priver de toutes ces choses? Alors que le travail pour Dieu, il est quand même assez dur, assez contraignant, et on ne voit pas vraiment le fruit, mais ce n'est pas la peine. Et Paul dit, non, ne réfléchissez pas comme cela, ne cédez pas à cette tentation. Soyons rassurés, soyons convaincus que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Le travail que vous investissez dans vos enfants, femme, dans votre mari, mari, dans votre femme, et ainsi de suite parmi tous les membres de votre famille, Dieu le voit. Et Dieu va dire, à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour. Où est-ce que le travail d'amour se fait? Bien sûr, parmi les chrétiens dans l'Église, mais premièrement, dans la famille. S'il n'y a pas d'amour dans la famille, comment voulez-vous qu'il y ait de l'amour dans l'Église? C'est impossible. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour pour lui. Dieu est juste et lorsqu'il le voit que nous travaillons pour lui, que nous sommes à l'œuvre, que nous sommes fermes, que nous sommes inébranlables, à ce moment-là, c'est lui qui s'assure de la réussite, c'est lui qui s'assure du fruit. Alors aujourd'hui, nous avons un choix. Les mamans, comme les maris, comme les jeunes, comme les plus âgés, tous, nous sommes devant ce choix. Est-ce que nous allons continuer de faire comme nous avons toujours fait, sans grand progrès, de dire peut-être ce que je fais pour Dieu, c'est ce qu'il faut, peut-être un jour j'aurai quelque chose, mais bon, c'est pas sûr. Ou est-ce que nous sommes prêts à prendre cette décision de changer d'optique et de dire j'ai la certitude que Dieu s'assure de l'avenir, c'est lui qui s'assure de la réussite. Et je suis complètement convaincu, contre tout ce que on pourrait me dire, tout ce que le monde pourrait me dire, tout ce que Satan voudrait me faire croire, je suis convaincu que Dieu voit mon travail et c'est lui qui s'assure de la récompense. Est-ce que nous sommes prêts à prendre cette décision d'être dans cette optique-là, de nous lever tous les matins en disant « mon travail aujourd'hui, au sein de ma famille, n'est pas en vain. Mon travail aujourd'hui a un sens parce que c'est Dieu qui s'en assure. » Et encore une fois, tout ceci part du principe qu'on est sauvé. Si on n'a pas la relation personnelle avec Dieu qui passe par Jésus-Christ et Jésus-Christ uniquement, tout le reste, ce n'est pas pour nous. Il faut passer par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et aujourd'hui peut être le jour du salut. Aujourd'hui peut être le début de ce travail pour le Seigneur. Mais il faut passer par ça. Si nous avons fait cette expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, ces versets sont dans la parole pour nous fortifier, pour nous encourager. C'est un rappel. Parce que la tentation est là de baisser les bras, de dire « je n'en peux plus ». Ce n'est pas la peine. À quoi bon de me priver de toutes ces choses? Et la raison, c'est ici. C'est parce que Dieu le voit. Et Dieu va s'assurer de la suite. Sachant, avons-nous cette certitude? Que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Les mamans, elles travaillent énormément. Il faut les remercier pour cela. Et les mamans qui connaissent le Seigneur comme leur sauveur personnel, soyez convaincus, ce que vous faites, Dieu le voit. Peut-être d'autres ne le voient pas. Dieu le voit. Et il veut que vous continuiez, que vous progressiez dans cela. Qu'il y ait un travail de mieux en mieux dans cette œuvre du Seigneur que vous faites au sein de votre famille. Prions les uns pour les autres. Priez pour les mamans. Leur tâche n'est vraiment pas simple. Priez pour les familles. Prions les uns pour les autres, que nous prenions tous cette décision avec la certitude en Jésus-Christ que nous allons être fermes, nous allons être inébranlables, nous allons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Oui, notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous reconnaissons la vérité de ta parole. Nous demandons ton aide parce que nous sommes incapables par nous-mêmes de toujours agir comme toi tu veux. Nous te remettons notre situation. Tu connais la situation de chacun, tu vois le cœur. Rien n'est caché à tes yeux. Tu es celui qui voit. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui fortifie par ton esprit. Nous demandons ton aide, Seigneur, aujourd'hui, de prendre la bonne décision, de pouvoir agir en conséquence de cette certitude que notre travail a du sens, n'est pas en vain. Il y a de la valeur, parce que c'est toi qui es derrière. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui. Demain, tout au long de cette semaine, qu'il y ait du progrès, que nous puissions dire par ta puissance que dimanche prochain, nous avons fait des progrès, nous avons mieux agi, nous avons mieux travaillé pour toi au sein de notre famille, parce que c'est toi qui l'auras fait et que tu puisses recevoir toute l'honneur, toute la gloire, toute la reconnaissance pour ce que tu as déjà fait dans notre vie et ce que tu vas faire par ta puissance. C'est en ton nom que nous prions. Amen.